Now you can miss up, man. Now you can smile thing, you know?
Smile thing, Leroy.
Come on, now.
Leroy, you're going the other way.
Voix de la Fédération Anarchiste sur 89.4 FM et www.radio-libertaire.net. C'est la nuit noire, c'est parti. Je vous rappelle que pour joindre l'émission, vous pouvez bien sûr utiliser le téléphone 01 43 71 89 40. Vous avez également les réseaux qui, eux, sont sociaux, hein, paraît-il. Et enfin, un mail qui s'intitule nuitnoire894@gmail.com. Alors, nous allons passer la soirée ensemble jusqu'à pas très tard ce soir. Une petite émission d'hiver, on va dire. Je vous rappelle que pour soutenir Radio Libertaire, vous avez la carte d'auditeur et carte d'auditrice de la radio qui sont disponibles à la librairie du Monde Libertaire au 145 de la rue Hamelon dans le 11e arrondissement de Paris. Vous avez également la souscription des amis de Radio Libertaire. Ça se passe sur radio-libertaire.net. .org. D'ailleurs, du reste, ça fonctionne mieux maintenant. Mais je pense qu'avec .net, on est toujours redirigé vers .org, donc il n'y a pas de souci. Et enfin, deux autres moyens, les autocollants de Radio Libertaire que vous pouvez coller un peu partout. Il y en a où il y a marqué « ni Dieu ni maître » dessus, c'est pas mal. Et enfin, le bouche à oreille, hein, faire connaître les programmes de Radio Libertaire tout autour de vous, c'est le moyen de soutenir la radio qui ne coûte pas un rond, mais qui est très efficace et qui permet effectivement à de nouvelles personnes de découvrir les programmes de Radio Libertaire, c'est bien. Donc n'hésitez pas à renseigner autour de vous les gens qui pourraient être éventuellement intéressés par nos programmes. Bien sûr. Ce soir, je vais vous proposer une petite sélection d'articles concernant une réalité qui, je trouve, est concernante, à savoir le climat. Et je ne vous cache pas que, étant un amoureux de la montagne, ce soir je vous propose une sélection d'articles concernant ce domaine, concernant cette zone géographique qui s'appelle la montagne et qui est elle-même à nouveau, tout particulièrement, à nouveau non, d'une manière générale, particulièrement sujette aux différents impacts du dérèglement climatique. C'est ce que nous verrons à travers une sélection d'articles qui seront bien évidemment consultables sur le site de l'émission missnight.blogspot.com. On va commencer par les Pyrénées, qui est un peu l'endroit d'où je descends. Donc je me suis un peu intéressé à l'impact de ce dérèglement climatique, notamment sur les animaux. Donc on verra dans un premier temps quelques réflexions autour de la faune, de la présence de la faune, mais également de la flore dans les massifs montagneux, et en particulier dans les Pyrénées dans un premier temps, et ensuite nous irons dans les Alpes, là aussi, pour quelques considérations végétales concernant ce dérèglement climatique. Et enfin, quelques petites brèves pour vous donner un petit peu un aperçu de l'état de la montagne, tout particulièrement bien sûr impacté pendant la saison d'été, mais encore que, disons que les stigmates sont plus facilement déterminables, en tout cas sont plus facilement identifiables lors de la saison d'été, mais sur la saison d'hiver également, hein, les stigmates du dérèglement climatique sont là. Mais en tout cas, ce soir, nous irons davantage sur l'impact mesurable, visible en été. Voilà. Alors, nous allons. On va commencer par une petite respiration musicale, en quelque sorte. Voilà.
I saw somebody who reminded me of you before you got afraid. Girl, I stopped and smiled at her. She screamed and ran away. It happens to me more and more these days. And these songs that you sing, do they mean anything to the people you're singing to? Of $100 bills. If the cold doesn't kill her, none will. I read a magazine that said by 17 your life was at an end. I'm dead and I'm perfectly content. And these songs that I sing, do they mean anything to the singing them to people like you? Mm-hmm.
Je ne vous apprends rien, le processus de dérèglement climatique est en marche. Depuis bien des années maintenant, un organisme international qui s'appelle le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, alerte les populations et les dirigeants également, les dirigeants du monde, au sujet de ce dérèglement climatique. Dans son dernier rapport, le sixième rapport d'évaluation sur le climat que le GIEC remet régulièrement, il est établi que dans le cas d'un réchauffement de 2 degrés d'ici 2100, jusqu'à 18% des espèces animales terrestres ont un risque élevé d'extinction. Il est également établi que entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes, soit près de la moitié de l'humanité, vivent dans des contextes hautement vulnérables au changement climatique. Il est établi également que dans un scénario où la Terre se réchauffe de 1,6 degré d'ici 2100, 8% des terres actuellement cultivables seront inadaptées à la culture d'ici la fin du siècle. Avec un impact, bien sûr, sur les populations et sur la nutrition de ces populations, le GIEC établit qu'entre 8 et 80 millions de personnes souffriront ainsi de la faim d'ici 2050 et que entre 800 millions et 3 milliards de personnes pourraient souffrir de pénuries d'eau chroniques en raison de sécheresse en cas d'un réchauffement climatique de 2 degrés. Je ne reviens pas davantage sur cette question. Il y a somme d'articles très bien faits dans la presse qui résument parfaitement la situation. Comme je vous le disais, je voudrais qu'on s'intéresse ce soir un tout petit peu à la montagne. C'est un milieu que j'apprécie d'un point de vue individuel, certes, mais qui est également un parfait milieu pour se rendre compte et mesurer l'impact de ce dérèglement climatique. Je vais vous emmener, ce n'est pas une surprise pour celles et ceux qui ont l'habitude d'écouter cette émission, nous allons partir dans les Pyrénées dans un premier temps. J'étais il y a quelques semaines de ça, dans les Pyrénées, où je vais tous les ans. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais trouver quelques ressources journalistiques pour nous expliquer un petit peu les conséquences de ce réchauffement climatique sur cette partie du monde qui m'est chère, certes, mais qui est aussi une partie du monde sur laquelle on peut mesurer de manière très concrète ce dérèglement climatique. Et effectivement, j'ai trouvé un article sur le site de France 3. C'est une interview. Une interview qui est menée par Christine Ravier, journaliste à France 3, qui est datée du 23 juillet dernier. L'article s'intitule Réchauffement climatique, comment s'adapte la faune et la flore au sein du parc national des Pyrénées ? Point d'interrogation. Et Christine Ravier a donc questionné Christophe Cognet, qui est le chef du service connaissance et gestion des patrimoines naturels au sein de ce parc national des Pyrénées. Et l'article que j'ai entre les mains n'est pas vraiment un article, c'est une interview, hein, comme peut-être vous l'ai-je déjà dit. Et je vous propose de vous lire en grande partie cette interview. Première question posée par Christine Ravier. Avez-vous constaté des changements à votre niveau du fait du réchauffement climatique ? Réponse de Christophe Cognet. Oui. On en constate avec l'arrivée d'espèces. Ce phénomène ne concerne pas forcément la zone du parc, mais il y a des mouvements d'espèces, des mouvements de cortège d'espèces dus au changement climatique. Ce n'est pas nouveau, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ça se produit de façon très rapide. On a des épisodes comme les sécheresses, qui sont plus forts et plus longs, et des changements aussi au niveau de la pluviométrie. Ces changements modifient les milieux naturels, les habitats des espèces. Si on prend l'exemple des forêts, la disparition du hêtre, par exemple, est écrite. Aujourd'hui, on a des endroits qui sont sans arbres du fait des conditions climatiques, de la hauteur et de la durée d'enneigement. Mais au vu des conditions différentes, des arbres vont pouvoir s'installer là où ils ne peuvent pas se développer aujourd'hui. Donc les cortèges végétaux changent et les espèces animales changent en cascade. Question de Christine Ravier. Quelles sont les espèces qui sont le plus mises à mal par ces changements rapides ? Réponse de Christophe Cognet. Toutes les espèces voient leur habitat évoluer. Le plus difficile, c'est pour les espèces de très haute altitude, car contrairement aux autres, elles ne vont pas pouvoir retrouver leurs conditions de vie habituelles en cherchant plus haut. Donc, à un moment donné, elles n'auront plus de substrat pour vivre. Ces espèces-là sont donc très menacées, comme par exemple le gant tétra ou d'autres espèces. Le grand tétra, c'est une sorte de, on va dire, une sorte de grosse poule. C'est un gallinacé, c'est un oiseau, un gallinacé, une sorte de grosse poule noire qui vit dans les montagnes. Question de Christine Ravier. Est-ce le cas des isards ? Les isards qui sont des sortes de bouquetins pyrénéens. Est-ce le cas des isards, par exemple ? Réponse de Christophe Cognet. Non. les isards peuvent vivre à plus basse altitude, tout comme les bouquetins ou les mouflons. On trouve des bouquetins au bord de mer. Ce dont ils ont besoin, ce sont de falaises. Les espèces concernées sont celles qui vivent dans les milieux très froids, qu'on appelle les reliques glaciaires, qui sont restées après les glaciations, comme le grand tétra dont je vous parlais à l'instant, ou le lagopède alpin. C'est la même chose pour les rivières. On nous annonce une baisse des débits de 30% et donc forcément ça va avoir un impact. Cela veut dire moins d'eau et des températures plus élevées. On sait par exemple que les truites ont besoin d'un niveau de température pour se reproduire. Elles doivent frayer à environ 4 degrés, donc il se peut qu'elles aient des problèmes du fait des températures plus élevées et d'une moindre profondeur de l'eau. On va avoir des espèces comme ça qui peuvent ne pas trouver les conditions pour diverses raisons. Il y a aussi celles qui ne disparaîtront pas, mais qui vont connaître une modification de répartition. Elles vont devoir changer d'endroit et ne vivront peut-être pas aux mêmes altitudes. On peut avoir des espèces de plaine qui vont se réfugier en altitude. On s'attend à des déplacements d'espèces. Et on le constate déjà aujourd'hui. On a des espèces qui arrivent d'Afrique et s'installent en France. C'est le cas de l'élanion blanc. C'est un petit rapace qui a un peu la corpulence du faucon crécelle. Il est arrivé dans les années 90. Il était observé en Espagne dès les années 70-80. Tout doucement, il remonte. On le trouve jusque dans le nord de la France. Il est capable de se reproduire toute l'année. Chez lui, il n'y a pas de saisonnalité. Il peut se reproduire deux fois sans problème, trois fois même. Il a gardé ça et s'adapte bien. Certains animaux arrivent à très bien vivre le changement. Autre exemple, une libellule à ailes pourpres, la libellule à l'air pourpre, qui a fait son apparition, elle est devenue commune en montagne. Question de Christine Ravier, est-ce que ces changements créent de nouveaux équilibres ? Réponse de Christophe Cognier. On est parti pour des centaines d'années puisque le climat ne va pas se stabiliser. On ne sait pas faire à ce stade. On sait qu'il y aura encore des augmentations d'émissions de gaz à effet de serre, donc on sait qu'on continue à réchauffer. Le déséquilibre va être maintenu. Pour qu'on ait un nouvel équilibre, il faudrait des conditions de vie stables. Or, on n'a pas stabilisé les émissions. Et quand on les aura stabilisées, on va chercher à les réduire, parce qu'il fait très chaud. Bref, on en a pour un long moment avant de retrouver un équilibre. Il y a d'autres choses, presque plus sournoises pour les espèces. Certaines fonctionnent ensemble. Un écosystème, c'est un fonctionnement en chaîne. Or, il y a des changements dans la phénologie des espèces, c'est-à-dire dans les phases de développement saisonnier. Je pense à la flore. On peut constater, dans son propre jardin, que les végétaux ne fleurissent plus à la même période. Ils peuvent fleurir plus tôt, ou pas du tout, si une sécheresse intervient. Si la fleur est pollinisée par un insecte qui a l'habitude de sortir, par exemple, au mois de mai, et que la fleur est là un mois plus tôt, l'insecte pourra-t-il s'adapter ? Ces décalages phénologiques peuvent entraîner la disparition d'espèces. Un papillon qui serait par exemple inféodé à une plante peut ne pas s'adapter si la plante n'est plus présente ou plus au même stade quand il apparaît. Le papillon va-t-il se déplacer pour retrouver les mêmes conditions ailleurs ? Va-t-il pouvoir changer de plante ? Quelle capacité d'adaptation va-t-il avoir ? Ce sont des réactions en chaîne qu'on peut imaginer, mais on ne sait pas réellement ce qui va se passer. Les isards, on en revient à la question d'avant, comme les bouquetins, devraient s'adapter plus facilement que d'autres espèces. Mais les infestations de tiques les fragilisent. Question de Christine Ravier, avez-vous vu comme ça disparaître certaines espèces de papillons ? Réponse de Christophe Cognier. Non, en montagne, on a peut-être un peu plus de facilité d'adaptation car il y a les fameux dénivelés. Des espèces trouvent refuge un peu plus haut, alors qu'en plaine, elles doivent aller plus au nord, changer de territoire. Donc pour l'instant, on voit beaucoup d'apparitions d'espèces, mais pas encore vraiment de disparitions. Ça mettra un peu de temps. On voit arriver des espèces colonisatrices qui ont des capacités de déplacement importantes, comme les oiseaux, les insectes volants. En corollaire, on voit arriver de nouvelles maladies, notamment d'Asie, sur les animaux sauvages, tout comme sur les animaux domestiques d'ailleurs. C'est en partie dû aux vecteurs. Beaucoup de ces maladies sont transportées par des tiques, qui sont de plus en plus présentes. Les montagnards le disent, avant ils n'en voyaient jamais. Et maintenant, certains endroits sont, entre guillemets, blindés de tiques. Des animaux sauvages, des ongulés comme les isards, les cerfs, les chevreuils, peuvent être fragilisés par les maladies qu'elles véhiculent et aussi parce qu'elles peuvent être présentes en grand nombre sur un même individu et pomper son sang. Nouvelle question de Christine Ravier. La marmotte est-elle aussi victime de ces changements ? Réponse de Christophe Cognier. La marmotte, typiquement, est une espèce qui pâtit du changement climatique. On a déjà des études qui montrent qu'à certaines altitudes, quand le manteau neigeux est beaucoup moins présent, moins longtemps, elle a une reproduction plus faible. La marmotte, on aurait pu penser le contraire, mais en fait, quand elle sort de son hibernation, elle ne trouve pas assez à manger, c'est trop tôt. Elle est affaiblie et se retrouve à avoir froid dans son terrier qui n'est plus couvert et donc qui n'est plus isolé par la neige. Son potentiel de reproduction est moindre car c'est l'état graisseux qui va déterminer le taux de fécondité. Les conditions très chaudes ou les sécheresses peuvent affaiblir l'ensemble des populations, mais aussi l'arrivée de maladies. L'altitude conditionne aussi la survie. On ne sait pas, par exemple, ce qui va advenir du lièvre variable. Il n'y en a pas dans les Pyrénées, mais il est étudié dans les Alpes. La question est, va-t-il rester brun toute l'année et pouvoir échapper à ses prédateurs ? Peut-être, ou pas. En tout cas, la sélection va sûrement faire que les individus qui seront les moins blancs dans les périodes où il ne faut pas l'être seront moins prélevés. On revient à la sélection naturelle, on revient à Darwin. Je fais une toute petite aparté, les gens qui croient en Dieu, Darwin, vous ne pouvez pas comprendre. Passons. Je reprends la lecture. Dans les choses qui évoluent et qui sont constatées, il y a aussi la modification des dates d'arrivée de migrateurs, comme les passereaux, mais aussi des oiseaux plus gros, comme les grues ou les cigognes, qu'on voit de plus en plus. Ces dernières recolonisent beaucoup l'ensemble du piémont pyrénéen. Question de Christine Ravier. Météo Pyrénées a publié un tweet avec le chant des cigales à 1000 mètres d'altitude en Ariège. C'est surprenant pour vous ? Réponse de Christophe Cognier. Non, on voit des cigales assez haut, enfin on les entend surtout. Elles se sont échappées du pourtour méditerranéen depuis longtemps, elles remontent vers le nord et l'ouest. On n'y fait pas attention parce qu'on ne les voit pas. La cigale stridule à une certaine température seulement. Quand on l'entend, elle est peut-être déjà là depuis 10 ans car elle a une période larvaire très longue. Elle peut rester en terre pendant 10 ans avant d'émerger. Donc on ne les entendait pas parce que les conditions météo n'étaient pas requises en termes de température, mais elles étaient là depuis 10 ou 15 ans. Question de Christine Ravier, et qu'en est-il des reptiles ? Réponse de Christophe Cognier. Jusque-là, on avait des espèces de lézards spécifiques à la haute montagne, des espèces endémiques des Pyrénées. Maintenant, on voit apparaître des lézards des murailles, les lézards classiques que l'on voit en plaine. Ils commencent à arriver dans les mêmes zones que le lézard de Bonal. Est-ce qu'ils vont cohabiter ? Point d'interrogation. Le lézard de Bonal, lui, remonte un peu en altitude. Va-t-il trouver des habitats assez hauts ? C'est un peu la même chose que pour les espèces de très haute altitude, les reliques glaciaires. Il y a un moment où ils ne pourront plus monter en altitude et ils peuvent disparaître. Certains animaux peuvent aussi être concurrencés par une espèce qui arrive et qui a la même niche écologique. Est-ce qu'ils vont cohabiter ? Est-ce que l'un va supplanter l'autre ? Si celui qui arrive apporte des maladies, va-t-il mettre en péril l'autre espèce ? Les reptiles ont des besoins spécifiques pour leur reproduction, un peu comme la truite qui va se reproduire ou frayer à une certaine température. Les reptiles, comme tous les animaux qui pondent des œufs, sont dépendants des conditions climatiques. Par exemple, pour certaines espèces, si vous avez jusqu'à 28 degrés, il peut y avoir des femelles et des mâles. Mais au-delà de 28 degrés, il n'y a plus de mâles. Imaginons que les températures montent beaucoup et que l'on n'ait plus de mâles. La reproduction, les années suivantes, va être compliquée et en deux générations, il peut ne plus y avoir personne. Donc voilà, il y a énormément d'interrogations sur ces grands changements et le fait que ça aille très vite. Ça ne facilite pas les adaptations, sans parler des espèces exotiques qui peuvent être envahissantes. On l'a vu en plaine avec les tortues de Floride, certains animaux vont profiter du changement, d'autres vont le subir et ne pas survivre. C'est une interview qui n'est pas choc, hein, qui n'a pas vocation à... mais qui interroge tout de même sur l'évolution et notamment celle sur les animaux. Alors c'est un article qui s'intitule « Réchauffement climatique, comment s'adapte la faune et la flore au sein du parc national des Pyrénées ?» Il a été publié par France 3 le 23 juillet dernier. Et c'est donc une interview de Christophe Cognier, comme je vous le disais, qui est le chef du service de connaissance et gestion des patrimoines naturels au sein du parc national des Pyrénées. Radio Libertaire, c'est la voix de la Fédération anarchiste. La nuit noire, ce soir, on part un peu en montagne, on prend un peu d'altitude.
Attrape la fille de tes rêves avec une simple guitare, leçon numéro 34. Attends. Ouais, attends, merde.
Ah, mais je reconnais ça, j'adore, c'est Still Loving You!
Et voilà!
Time! Oh, it's time! Back your love again, I will be there,
I will be there,
I will be there. Love,
love,
I'm in love,
love.
If I'm the man of the thing, I will be there,
I will be there,
I will be there. If you want again, I will be in your love. If you want again,
je parlais à l'instant avec Claude, auditrice de Radio Libertaire, que je salue, bonsoir Claude, et qui me disait, bon, tout ça est un peu alarmant, c'est vrai. Et j'en conviens, Claude, hein. Effectivement, tout ça est un peu alarmant, même si le propos tout de même de Christophe Cognet est relativement... essaye de rester, on va dire, le plus scientifique possible, le plus neutre possible. Ça, son idée n'est pas de d'effrayer les gens, même si le constat est un peu effrayant. Il explique quand même que certaines espèces vont arriver par le miracle de la nature, hein, et comme elles ont toujours fait. Certaines espèces vont s'adapter, mais malheureusement pour d'autres. Et surtout, au-delà de ça, je veux dire, au-delà des évolutions naturelles climatiques, hein, qui ont toujours existé depuis que ce monde, et j'allais dire l'humanité, mais ça précède l'humanité, depuis que ce monde est monde, au-delà de ces évolutions climatiques lentes et qui se font à travers un processus qui est tout à fait naturel, là on assiste tout de même à un réchauffement climatique qui n'a rien de naturel, puisqu'en grande partie ce sont les activités humaines, hein, qui induisent ce réchauffement climatique. Pardon, excusez-moi. Et donc, bien sûr que la brutalité avec tout la brutalité de ce phénomène, hein, bien évidemment, impacte de manière importante et pose bien des questions auxquelles certains scientifiques essayent de répondre et puis auxquelles certains, en revanche, hein, à contrario, certains gens de la démagogie tiennent absolument à minimiser tout ça, à minimiser cet impact. Il suffit d'allumer certaines chaînes de télévision, hein, pour s'en rendre compte. Alors nous étions dans les Pyrénées, nous allons nous transporter dans les Alpes, hein, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Et puis je salue donc tous les amis des Alpes. Avec un autre article qui a été publié par RFI, Radio France Internationale, le 5 juin dernier, et qui s'intitule ainsi « Réchauffement climatique, l'ensemble des Alpes est touché par un verdissement ». Il y a un chapeau à cet article qui est également une interview. Selon une étude menée par des chercheurs de l'Université de Lausanne en Suisse et dont les résultats ont été publiés jeudi 2 juin dans la revue de référence Science, la végétation a augmenté de près de 80% de la surface des Alpes au-delà de 1700 mètres. Entre Antoine Guizan, un biologiste, et co-auteur de l'étude, ne cache pas son inquiétude. Et RFI a donc questionné Antoine Guizan, biologiste et co-auteur de cette étude. Première question posée par RFI. Quel est le fait scientifique nouveau apporté par votre étude et au regard de ce que l'on savait déjà sur les effets du changement climatique en montagne? Réponse d'Antoine Guizan. À ma connaissance, c'est la première étude qui montre une baisse claire des neiges éternelles en altitude et un verdissement aussi important. Nous nous sommes concentrés sur les zones au-delà de 1700 mètres dans l'ensemble des Alpes. Dans ces espaces, la végétation a augmenté de 77% en 40 ans. C'est spectaculaire, on ne s'y attendait pas. Dans le même temps, la surface des neiges éternelles a diminué de près de 10%, ce qui est beaucoup. La raison pour laquelle la neige a régressé sur moins de surface que la végétation n'a augmenté pourrait être que seule la présence ou absence de neige a pu être mesurée par satellite, alors qu'un changement plus graduel a été mesuré par la biomasse végétale. Or, si les images utilisées montrent un rétrécissement de l'étendue de la neige, elles ne disent rien de son épaisseur, qui a peut-être diminué et qui pourrait dès lors disparaître très vite si le réchauffement climatique continue. Le verdissement de l'Arctique a été étudié, l'océan Arctique a été étudié depuis le début des années 80 déjà. On sait désormais que l'ensemble du parc alpin est également touché par ce changement et de façon massive. Alors, c'est très intéressant ce qu'il dit. Effectivement, mesuré par satellite, on voit qu'il y a de l'enneigement, mais on ne se rend pas compte si cet enneigement représente un mètre, s'il représente quelques centimètres seulement, quel va être son... Je reviens à l'article précédent. Quel va être son impact sur le... Par exemple, sur l'habitat des marmottes. Si on a une toute petite couche de neige qui ne protège pas la marmotte et qui ne lui permet pas de s'isoler, et bien évidemment, cette couche de neige ne représente pas grand-chose. En tout cas, elle n'a pas le même impact qu'une couche de neige assez importante pour que la marmotte puisse être au chaud. Donc, bien sûr, c'est une chose très importante. Alors, je vais arrêter de commenter parce que ça dépasse largement mes compétences intellectuelles. Et donc, je vais continuer à vous lire tranquillement, mais c'est vrai qu'il apporte un... C'est facile. J'ai réagi sur ce point-là parce qu'il est parfois facile de regarder en surface les choses, mais si on ne s'intéresse pas un petit peu plus en profondeur aux impacts réels, bien, on reste sur la surface de la chose. Et finalement, on ne fait que survoler le problème. Je reprends donc ma lecture. Deuxième question posée par RFI à Antoine Guizan, biologiste et auteur de l'étude concernant le verdissement dans les Alpes. Comment avez-vous travaillé pour parvenir à ce résultat ? À partir d'images satellitaires Landsat de la NASA. Dans le passé, on avait fait des essais sur des petites zones et on avait des réponses tellement fortes qu'on s'est dit que ce serait intéressant de voir ce qui se passe à l'échelle de toutes les Alpes. L'autre apport de cette étude, c'est que nous avons travaillé dans une résolution d'image beaucoup plus fine que la seule étude précédente aussi menée sur toutes les Alpes. Chaque pixel examiné représente 30 mètres par 30 mètres de relief sur tout l'arc alpin. Alors, je ne sais pas si c'est bien intéressant, je vais passer cette dimension-là qui est très technique, qui n'apporte pas grand-chose. Question de RFI, quelles sont les raisons de cet accroissement végétal en haute altitude ? Voilà bien ce qui nous intéresse effectivement. Réponse d'Antoine Guizan. Le changement climatique, puisque les Alpes se sont réchauffées de 2% depuis l'ère industrielle, c'est énorme, puisque c'est presque deux fois la moyenne mondiale. 2 degrés, il est établi par cette étude que les Alpes se sont réchauffées de 2 degrés, ce qui est absolument énorme. Je rappelle quand même que le GIEC fixait comme cap un réchauffement de 1,5 degré. Or, il est déjà établi qu'apparemment que les Alpes ont augmenté, que la température moyenne dans les Alpes a augmenté de 2 degrés, ce qui est absolument colossal. Donc, quelles sont les raisons de cet accroissement végétal ? Le changement climatique, apparemment très clair. C'est énorme, puisque c'est presque deux fois la moyenne mondiale. Ce réchauffement conduit à une montée des espèces végétales en altitude, et donc aussi à une montée de la limite des forêts. Et un des signes précurseurs de cette montée des forêts, c'est l'embuissonnement des pâturages, juste au-dessus de la limite des arbres, qui se transforment en landes de rhododendrons, myrtilles et genévriers par exemple. Un indice de végétation, le Normalized Difference Vegetation Index, NDVI, permet de déterminer très précisément l'augmentation de cette biomasse depuis l'espace. Question de RFI, mais plus de vers dans les montagnes, n'est-ce pas une bonne nouvelle ? Réponse d'Antoine Guizan. Ce verdissement d'altitude pourrait théoriquement avoir un point positif s'il permettait à plus de carbone d'être capté par l'augmentation de la végétation. Mais cet effet devrait être relativement négligeable sur le climat mondial. Il y a par contre des menaces. La première, biologique, c'est que le verdissement s'opère au détriment de la biodiversité alpine de ces altitudes. La flore, mais aussi la faune, comme les papillons et autres insectes liés aux plantes hôtes, voire même les micro-organismes dans le sol. Des plantes qui occupent les plus hautes altitudes jusqu'au sommet seront concurrencées par des espèces de plus basse altitude qui ne supportaient pas l'excès de gel ou le climat trop froid. Les secondes, plus vigoureuses, vont alors remplacer les premières plus fragiles, comme le silène couché, le saule nain, les gentianes et même l'edelweiss, qui ont une croissance très faible à ces altitudes, parfois de quelques millimètres seulement par année. On observe déjà des migrations claires en altitude. On pourrait ainsi faire face à des extinctions majeures d'espèces alpines, parfois uniques dans les Alpes. Si elles disparaissent, ce sera pour toujours, car les extinctions à l'échelle globale sont irréversibles. Bon, Claude, j'en conviens, ce n'est pas très réjouissant, ce chapitre-là non plus, hein. Je te l'accorde. Je me permets le tutoiement du fait de notre incontinence libertaire. Question de RFI. Quelles autres conséquences ces bouleversements vont-ils avoir? Réponse d'Antoine Guizan. L'augmentation de la végétation combinée à la réduction de la neige devrait aggraver le réchauffement climatique. Quand la neige disparaît, on a moins de réflexion des rayons du soleil. La végétation absorbe ces rayonnements, réchauffe les montagnes, ce qui fait fondre la neige et les glaciers. Cela crée un emballement. Ce réchauffement fait également fondre le permafrost, ce sol gelé en permanence. Or, le permafrost, également appelé pergélisol, en français apparemment c'est plus correct, c'est le ciment des montagnes, ce permafrost. Lorsqu'il dégèle, tout descend. Cela crée des éboulements que l'on constate de plus en plus. Une autre menace, c'est le tarissement de l'eau. En été, les neiges éternelles et les glaciers fondent en partie et alimentent les torrents et les barrages hydroélectriques. Ce sont aussi des châteaux d'eau naturels, hein, en quelque sorte, pour les populations et les élevages, jusqu'aux basses altitudes. Dans ce sens, notre étude sur ce déclin des neiges éternelles est assez inquiétante. Question de RFI, ce changement est-il réversible? Réponse d'Antoine Guizan, qui va ajouter tout de même une petite touche d'optimisme, il a raison. Oui, c'est réversible, du point de vue de la végétation en tout cas. Si on arrivait à stabiliser le réchauffement, la végétation devrait rapidement réagir en conséquence. C'est par contre plus questionnable pour les neiges et les glaciers. Mais cela sort de mon domaine de compétence et je préfère laisser mes collègues cryologues s'exprimer sur ce sujet. Juste précaution de la part d'Antoine. Il est donc primordial, c'est Antoine qui parle à nouveau, il est donc primordial de tout faire aujourd'hui pour stopper aussi vite que possible le réchauffement climatique. Le dernier rapport du GIEC parle de quelques années seulement pour faire un virage majeur. Je vous parlais des Pyrénées il y a quelques instants et on constate que dans les Alpes, eh bien, d'autres questions hein, liées au verdissement, mais qui coupe hein, d'une certaine manière ce que je vous racontais à propos des espèces de faune et de flore dans les Pyrénées. On voit que les enjeux sont globalement à peu près les mêmes, hein, on va dire. Il n'y a pas de souci. Pour rester dans le domaine de la faune, je vous donnerai également un lien sur le blog hein, missnight.blogspot.com, le blog de l'émission. Je vous donnerai également un lien vers un article qui s'intitule « La taille des abeilles de montagne se rétrécit sous l'effet du réchauffement climatique ». C'est un article qui date du 28 avril dernier, qui avait été publié par La Dépêche, et qui s'intéresse à une étude qui a été menée dans les montagnes rocheuses aux États-Unis d'Amérique, donc par conséquent, où des chercheurs ont observé 154 espèces d'abeilles pendant 8 années consécutives, donc une étude sérieuse, hein, longue, menée sur le long terme, dans une région subalpine des montagnes rocheuses, particulièrement sensible au réchauffement climatique. L'objectif était de déterminer la manière dont ces abeilles s'adaptent au changement des conditions climatiques de leur lieu d'habitat. Et les chercheurs disent ceci, nous avons constaté que l'abondance relative des abeilles de grande taille, qui construisent des rayons et vivent dans les cavités, diminuait avec l'augmentation des températures, tandis que celle des abeilles de plus petite taille, qui nichent dans le sol, augmentait. En outre, les abeilles dont le régime alimentaire est plus étroit ont vu leur abondance relative augmenter avec la diminution des précipitations. Ils expliquent également l'impact de la diminution du manteau neigeux sur les abeilles, ce manteau neigeux a un impact sur les marmottes, les pauvres marmottes, et je vous en parlais, mais également sur les abeilles, c'est assez intéressant. Dans l'ensemble, alors ça c'est les résultats, c'est les scientifiques qui parlent, dans l'ensemble nos résultats montrent comment le changement climatique peut remodeler des communautés d'abeilles pollinisatrices. Les abeilles présentent certaines caractéristiques augmentant en abondance et d'autres diminuant, ce qui pourrait conduire de nouvelles interactions plantes-pollinisateurs et à des changements dans les reproductions des plantes. Mais d'après l'étude, ces abeilles ne sont pas les seuls insectes pollinisateurs menacés par ces dangers. Les bourdons, qui ont une moindre tolérance à la chaleur, pourraient se faire moins nombreux, ce qui, selon les chercheurs, pourrait entraîner des effets en cascade sur les écosystèmes. Bien évidemment, lorsqu'on parle d'écosystème, on parle d'interaction entre les différentes espèces. Et le rôle pollinisateur de l'abeille, j'ai pas besoin de vous en parler, je pense que c'est quelque chose que chacun et chacune a bien en tête, hein, y a aucun souci là-dessus. Mais il est important tout de même de rappeler que voilà, ces espèces-là qui jouent un rôle important dans le maintien de l'écosystème et donc de la nature dans sa globalité, eh bien, sont d'ores et déjà très menacées et très impactées par le dérèglement climatique que pour le coup on peut appeler réchauffement, hein, mais qui n'est pas aussi simple qu'un phénomène de réchauffement, même si on s'oriente vers un réchauffement. Mais par exemple, les pluies abondantes que l'on constate en été, l'été dernier, l'été 2021, donc pas 2022, mais 2021, on se rappelle des inondations en Belgique, ou en Allemagne, ou en Turquie. Hein, je pense que ce sont des images qu'on a encore en tête, peut-être vous et moi, en tout cas que j'ai encore en tête, que je vous invite à vous remémorer. Là, en l'espèce, on ne parlait pas de réchauffement, mais on a eu quand même un phénomène météorologique très impactant qui est lié à ce dérèglement climatique. Hein. Cela a été bien évidemment, si je vous dis ça, c'est que cela a été bien évidemment établi par les scientifiques qui se sont penchés sur ces questions.
Sadness.
à l'instant même, Empty White Blues, c'est pas récent hein, tout ça, hein. Ouais, attendez. Nous écoutions avant The Disco Mobile, groupe formé autour de Didier Super avec une reprise de Still Loving You et Charlotte Gainsbourg de Songs That We Sing dans la nuit noire sur Radio Libertaire. Alors là, je vous propose une petite sélection rapidement d'articles. On va effectivement s'intéresser aux Alpes. Après, il y aura une petite balle perdue là comme ça en passant. J'en dis pas plus pour l'instant, mais je voulais quand même vous dire de rester à l'écoute puisque je vais vous proposer à la fin de cette petite sélection d'articles une conférence de Valérie Masson-Delmotte qui est l'une des principales responsables du GIEC hein, dont je parlais, le groupe d'experts chargé du climat, intergouvernementaux chargé du climat. Valérie Masson-Delmotte qui connaît bien son sujet et qui pendant une heure, c'est pas bien compliqué à suivre, c'est très enrichissant, explique précisément l'impact des activités humaines sur ce réchauffement climatique, à savoir quasiment 100%, hein. Explique également comment se fait ce travail du GIEC. Hein. C'est pas uniquement des experts qui sont dans un bureau loin de tout et qui reçoivent des données et qui disent c'est comme ça qu'il faut penser. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est même un peu plus, pas compliqué, mais disons un peu plus complexe que ça. Ce sont des tas de spécialistes dans leur domaine, hein, des géologues, des météorologues, plus précisément d'ailleurs, plus que des géologues, des météorologues qui sont un peu partout dans le monde et qui font, du fait de leur expérience, remonter des données jusqu'à un panel de scientifiques qui travaillent sur ce matériau brut qui est confié par des gens qui sont au plus près du terrain. Hein. C'est pas uniquement des gens qui se consacrent à l'étude d'études, en quelque sorte. Non, ce sont aussi des gens qui... le GIEC, c'est un ensemble de gens qui sont depuis le terrain jusqu'au bureau où on centralise le tout, parce qu'à un moment, il faut quand même réfléchir, mais c'est pas uniquement des gens qui sont haut perché et qui connaissent rien à la réalité du terrain. C'est aussi des tas de scientifiques qui mettent la main dans la merde, excusez-moi du mot, mais qui relèvent de manière très concrète l'impact de ce réchauffement climatique sur les différentes activités humaines, sur les différentes réalités humaines, plus qu'activités. Hein, réalités, je veux dire, lorsqu'on parle de gens qui, de 800 millions de personnes, je parle bien de 800 millions de personnes qui seraient à l'horizon 2100 impactées par de vrais problèmes d'approvisionnement de l'eau, ça existe déjà aujourd'hui, hein, par ailleurs, hein. Ne rêvons pas. Et puis, un petit aparté comme ça en passant. L'autre jour, dans une autre émission dont je m'occupe qui s'appelle Le Ferré Club, je m'inquiétais du fait que 234 migrants sont arrivés en France et ça a suscité un torrent de démagogie, un torrent d'articles en tout genre à propos de ces gens qui sont arrivés en France depuis la mer, quoi. Hein. Je vous épargne la démagogie la plus crasse exprimée par l'extrême droite lorsque ces 234 personnes sont arrivées. 234 personnes. Mais avec l'impact du dérèglement climatique, on ne parle pas de 234 personnes qui vont être obligées de quitter leurs conditions de vie actuelles, obligées de le faire, parce qu'elles ne pourront plus manger, parce qu'elles ne pourront plus boire. Hein. Et forcément que cette question climatique va avoir des répercussions sur, y compris la démagogie des pires factions politiques. Hein. De grands mouvements migratoires vont être induits par le dérèglement climatique. Il faut se le mettre en tête, il faut accepter cette idée-là. Alors, bon, nous qui sommes d'une mouvance un petit peu éloignée, hein, tout de même, de cette démagogie crasse, peut-être avons-nous dans le cœur, aussi bien que dans l'esprit, conscience de ces réalités-là. Malheureusement, j'ai peur que ce soit un peu plus compliqué que ça pour les gens, par exemple, je vais donner des noms, tiens, par exemple, pour les Zemmour, pour les CNews, pour les Pascal Pro, pour tous ces gens-là. Ah ! Alors, quelques brèves, comme ça, en passant. Une première, au mois de juin dernier, un relevé de température, un record de température au sommet du Mont Blanc. Un article de presse donné par le Dauphiné Libéré le 19 juin. Ce samedi 18 juin à 14h, la station météorologique italienne installée au col Major, 4750 mètres, tout près du sommet du Mont Blanc, a enregistré la température de 10,4 degrés Celsius. une valeur plus qu'exceptionnelle pour une telle attitude. Le précédent record de cette station météo gérée par l'Agence régionale de protection de l'environnement du Val d'Aoste était de 6,8 degrés, température recensée en 2019, et qui elle-même était déjà bien supérieure au précédent record. 10,4 degrés au sommet du Mont Blanc. Je pense que même, alors moi qui n'ai aucune capacité intellectuelle sur le plan scientifique, sur le plan global j'en ai pas énormément, mais alors sur le plan scientifique j'en ai absolument aucune. 10,4 degrés au sommet du Mont Blanc, il y a un problème quand même, quelque part. 19 juin, le record 18 juin, l'article 19 juin. Un autre article publié par Géo. Alors là, on est dans l'anecdotique, on va dire, hein, mais on va très vite passer de l'anecdotique au tragique, vous allez voir. Un article donné par Géo le 4 juillet dernier, réchauffement climatique, 2 points, le glacier d'été à Tignes, contraint de fermer ses portes avec 1 mois d'avance. C'est l'anecdotique, j'en conviens, je vous donne quand même juste quelques lignes de cet article. Le glacier de la Grande Motte à Tignes, seul glacier d'été encore ouvert en saison estivale. Le seul glacier encore ouvert en saison estivale. Une saison estivale, si ça existe, c'est qu'à une époque, on a décidé qu'on allait appeler ça saison estivale. Il y avait tout plein de petits glaciers comme ça, que les amateurs de glaciers en été allaient parcourir comme ça, aucun souci. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un. Donc, je reprends la lecture depuis le début. Le glacier de la Grande Motte à Tignes, seul glacier d'été encore ouvert en saison estivale, a fermé ses portes le vendredi 1er juillet, soit 1 mois à l'avance de sa date de fermeture initiale. Ouvert le 18 juin, le glacier aurait dû rester ouvert au total 6 semaines jusqu'au 31 juillet. Cette fermeture anticipée est due à une conséquence du réchauffement climatique, la fonte des glaces qui s'accentue d'année en année. Un autre glacier, celui de Pissayas, à Val d'Isère, n'a lui tout simplement pas ouvert cette année. Donc ça c'est très anecdotique me direz-vous, mais on va très vite de l'anecdotique au tragique. Et on passe la frontière hein, d'une certaine manière, même si là la station de météo concernant le Mont Blanc était du côté italien, on retourne en Italie pour quelque chose d'absolument tragique pour le coup. Je reviens juste un instant, un tout petit instant sur l'article précédent où je ne sais plus si c'est Antoine qui expliquait ça. Le permafrost fond. Et donc, avec lui, la stabilité du sol est très largement impactée. Et on voit s'effondrer des pans entiers de glaciers. Et ce fut le cas, notamment au début juillet, au glacier de Marmolada, en Italie. Un article publié par BFM avec AFP le 7 juillet dernier, intitulé Glacier effondré en Italie, le bilan s'alourdit et passe à 10 morts. Le bilan de l'effondrement dimanche 3 juillet d'un énorme bloc du glacier de la Marmolada, le plus haut sommet des Alpes italiennes, est passé jeudi de 9 à 10 morts après la découverte d'un nouveau corps, ont annoncé les autorités locales. Le glacier avait été fragilisé par le réchauffement climatique ainsi que par des températures records enregistrées cette année en Italie, 10 degrés au sommet de la Marmolada la veille de la catastrophe. Les fortes chaleurs ont accéléré sa fonte et l'eau s'est accumulée sous cette calotte glaciaire, la rendant instable. Un autre article, publié le 16 juillet par 20 minutes, dérèglement climatique, sécheresse et chute de pierre incite à la vigilance au Mont Blanc. Les autorités de Haute-Savoie recommandent aux alpinistes qui souhaitent gravir le Mont Blanc par la voie classique, empruntant le couloir du Goûter, à différer momentanément leur ascension en raison des chutes de pierre à répétition. Les compagnies de guides de cette ville et de Chamonix, donc la ville, je ne sais pas de quelle ville, excusez-moi, j'ai loupé une partie de... Bon, les compagnies de guides, en tout cas, ont de leur côté suspendu temporairement l'ascension du Mont Blanc par l'itinéraire classique, décision de sagesse selon les autorités qui invitent les alpinistes à se tourner vers d'autres courses de haute montagne dans le massif. Il y en a de moins en moins, donc bonjour aux alpinistes, hein, bon courage aux alpinistes. Bon là c'est très anecdotique me direz-vous, hein, bien évidemment. Mais d'une manière plus globale, l'impact de ce réchauffement climatique, de ce dérèglement climatique, j'aime mieux à dire, mais là en l'espèce c'est vrai que c'est directement un phénomène de réchauffement qui est problématique. Mais l'impact de ce dérèglement climatique sur les glaciers est très concret. On a le 27 septembre dernier, dans 20 minutes encore, avec AFP. Quand vous voyez un article sur Internet où vous voyez le nom du journal, Le Monde avec AFP, Libération avec AFP, je ne sais pas quoi encore avec AFP, c'est que c'est la brève de l'AFP qui a été reprise. Le stagiaire du coin s'est contenté de mettre à la ligne, parce que les brèves de l'AFP, c'est très dense. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est un truc comme ça. C'est un gros texte bien compact, et donc effectivement sous-payé un mec pour, ou une fille d'ailleurs, hein, pour aller faire les renvois à la ligne, c'est vrai que c'est très nécessaire. Réchauffement climatique, deux points, un glacier des Alpes disparaît en Allemagne. Je vous lis l'article. Nouvelle preuve de l'accélération du réchauffement climatique, la partie sud du glacier Schneeferner dans les Alpes bavaroises en Allemagne a fondu pendant cet été particulièrement chaud et a perdu définitivement son statut de glacier, a annoncé lundi l'Académie bavaroise des sciences. L'épaisseur de la glace n'atteint même plus les 2 mètres à de nombreux endroits et moins de 6 mètres aux endroits les plus profonds, selon les mesures des radars à pénétration de sol réalisées en septembre. En 2018, elle était encore de 10 mètres, rappelle l'Académie dans son communiqué. L'article cite l'Académie. Nous en déduisons que le reste de la glace aura complètement fondu d'ici un an ou deux. Parallèlement, la surface du glacier s'est réduite à moins de 1 hectare, soit environ moitié moins qu'en 2018. Je passe une partie de l'article, mais la suite nous dit un rapport publié il y a 2 ans par le gouvernement régional avait mis en garde contre la fonte plus rapide que prévu des glaciers, dont le dernier pourrait disparaître complètement d'ici une décennie, alors que les estimations antérieures avaient fixé la date fatidique à 2050. Là, on parle de, donc d'une décennie d'ici 2030. La fonte des glaciers des Alpes, dans les Alpes et ailleurs dans le monde, attribuée au réchauffement climatique, est surveillée de près depuis le début des années 2000. Il y a 2 ans, une étude publiée par la revue Nature avait révélé que la fonte rapide ces dernières années contribuait désormais à plus de 20% de la hausse du niveau de la mer. Claude, je suis navré, hein, c'est vraiment pas de bien réjouissantes nouvelles que j'apporte ce soir, j'en conviens. Un autre article publié par l'Indépendant le 28 septembre dernier. Donc là, ce sont des articles plus récents, hein, j'en conviens. Réchauffement climatique, 3 km cubes de glace disparus. Jamais les glaciers suisses n'avaient fondu aussi vite. Cette fois-ci, c'est l'Académie des sciences naturelles de la Suisse qui a rendu un rapport et qui indique ceci. Les glaciers du pays ont subi une fonte record cette année, une baisse jamais observée qui dépasse celle observée lors de l'épisode caniculaire de 2003. Cette année, ils ont perdu plus de 6% de leur volume, soit 3 km cubes, de glace fondue, certains ayant quasiment disparu. Jusqu'à présent, les pires années qualifiées d'extrêmes enregistraient une perte de 2%. Là, on est à 6%, donc on est au-delà de l'extrême, si vous voulez. En cause, selon l'Académie suisse des sciences naturelles, un enneigement printanier plus faible que les années précédentes, suivi de grandes quantités de poussière du Sahara, de mars à mai. Ces dépôts résiduels sahariens ont alors taché la neige qui a absorbé plus de rayons solaires. Oui, quand le sol est moins blanc, effectivement, il est plus sensible à l'impact du rayonnement solaire. Et donc, bien sûr, donc, je reprends la lecture. Ces dépôts résiduels sahariens ont taché la neige et qui a absorbé plus de rayons solaires et s'est réchauffé et a fondu plus vite. Un phénomène qui a favorisé dès le début de l'été la disparition de la couche de neige protectrice des glaciers, de quoi les fragiliser encore plus à l'arrivée des fortes chaleurs qui ont persisté entre mai et début septembre. On continue, 25. Alors là, on vient un petit peu en arrière, mais encore une fois, sur les glaciers. Et avec les glaciers, bah, la pratique humaine hein, qui se fait au sein de ces glaciers, donc la pratique des alpinistes qui aiment aller parcourir ces endroits qui sont merveilleux. Hein. Enfin, là, c'est du subjectif. Je fais intervenir un tout petit peu de sujet subjectif, enfin, qui sont des endroits très beaux, hein, sans aller jusqu'à l'émerveillement. Hein, admettons tout de même la beauté de ces lieux. Et qui dit présence humaine, dit refuge. On installe des refuges ici ou là pour permettre aux alpinistes, effectivement, de se reposer un petit peu, de repartir, etc. Ça existe depuis des refuges, je ne prends rien. Des refuges en montagne, tout le monde sait qu'il existe des refuges en montagne. Et pourtant. 2 articles ont retenu mon attention hein, sur cette question des refuges. En Isère, d'abord le premier, 27 mai dernier, publié par France 3 sous la plume d'Olivia Boisson. Isère, fermeture définitive du refuge de la Pilate, victime du réchauffement climatique dans les Alpes du Nord. Situé au cœur du massif des Écrins, à plus de 2500 mètres d'altitude, le refuge de la Pilate ferme définitivement ses portes en raison d'importants problèmes structurels dus à la forte instabilité du socle granitique sur lequel il est construit. Fonte du permafrost, hein, j'en reviens toujours à ce, encore une fois, à ce que nous apprenaient les articles précédents. Donc c'est la Fédération française des clubs alpins et de montagne qui indique ceci dans un communiqué à propos du refuge de la Pilate. Le refuge avait été construit en 1954 sur un promontoire rocheux, autrefois soutenu par le glacier de la Pilate. Ce dernier a perdu près de 50 mètres d'épaisseur depuis le début des années 90 en raison du réchauffement climatique. Et donc forcément, lorsque tu prends appui sur un socle qui tend à disparaître parce qu'il fond, eh bien, il y a un gros souci. Je vous mettrai le lien, hein, bien évidemment, comme l'ensemble des articles, parce que je vous apporte des données comme ça pour réfléchir, mais rien de mieux finalement de votre côté de vous faire votre propre idée. Et pour vous faire votre propre idée, bien évidemment, allez solliciter les mêmes ressources que celles que je sollicite ce soir. Et donc, il est tout à fait normal de vous permettre un renvoi vers ces articles sur le blog missnight.blogspot.com. Il y a notamment, au sujet de ce refuge de la Pilate, un reportage télévisuel, cette fois-ci, hein, fait par France 3, dans ce refuge de la Pilate, qui date pas d'ailleurs de cette année 2020, mais qui date d'il y a quelques années, où déjà s'exprimaient quelques inquiétudes concernant la pérennité de ce refuge. Et alors, d'un refuge à l'autre, 27 août dernier, publié par Le Figaro, réchauffement climatique, l'emblématique bivouac de la Fourche s'est effondré. Situé à la frontière entre l'Italie et la France, au pied du mont Maudit et au-dessus du glacier de la Brenva, dans le massif du Mont Blanc, le bivouac de la Fourche s'est effondré mercredi 24 août. Instable depuis plusieurs semaines, ce petit refuge, pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes, n'était plus fréquenté depuis la mi-juillet. Selon la chaîne Météo et plusieurs climatologues, le refuge a été victime de, ouvrez les guillemets, l'été caniculaire de la fonte du permafrost, ayant fragilisé la roche. Fermez les guillemets. Voilà, alors je vous mettrai peut-être d'autres articles dans cette petite sélection, même s'il y a déjà beaucoup à faire, hein, avec ces quelques articles-là que je ne vous ai pas lus dans leur entièreté, mais dont je vous ai donné les grandes lignes. Vous retrouverez bien sûr l'ensemble de ces, comme je le disais, hein, l'ensemble de ces articles en lien sur le site missnight.blogspot.com. Voilà. Radio Libertaire, bien sûr, la voix de la Fédération anarchiste sur 89.4 FM et www.radio-libertaire.net. Voilà, bien sûr. C'est la nuit noire.
just the same. I love everyone I meet, as they fame or be they play. Down to the last stupid cow, I praise with every word I utter. I'm disgusted by men now, with their morals from the gutter. But there's no woman in this land quite as stupid as her brother, nor so vain or underhand, except maybe Madame Thatcher. Lady, I love you now, I do, 'cause when a sport becomes a war, there's no girls or very few among those fans who yell for more. Those fanatics of the games, beer and hate just makes them mean. They call the other side such names and make such gods of their own team. There is no female hooligan in Basilic filled with murder, no, not even in Britain, except for sure Madame Thatcher. I love woman just because when she's sitting at the wheel, there's no man-like sense of loss, no urge to kill is yours to feel. For a slightly damaged headlight or two fingers in the air, there are those who wish to fight to the death if they but dare. And a pure safe favorite sign, there's no woman so vulgar to use this symbol all the time, except perhaps Madame Thatcher. How I love you, dear woman. You don't go to war to die, because the vision of a gun does not make you pant and sigh. With those hunters of the night who jump on creatures that are frail, or a child in their gun sight, I have yet to see a female. There is no woman low enough to spit and polish a revolver, just to feel so bloody tough, except for sure Madame Thatcher. The atom bomb was never made by a human female brain, and no female hand has laid those US peoples of the plain. Palestinians and Armenians bear their witness from the grave that a genocide is masculine, like an SS or Green Beret. In this bloody mass of men, each assassin is a brother. There's no woman rivals them, except of course Madame Thatcher. And lastly, woman, above all, I love your gentleness so mine. Man draws strength from his own balls, which like his gun he shoots from wild. And when the final curtain draws, he joins the cretins in the harvest, playing football, playing wars, or who can be the fathers. I will join the doggy host and love my days on earth, as my day-to-day lambost I would use Madame Thatcher.
Ah. Alors, y a-t-il des chasseuses ? Si vous êtes à l'écoute, les chasseuses, vous pouvez zapper. Il y a quand même un environnement radiophonique très large tout autour de nous. L'environnement direct est plutôt pas mal en plus. Hein. RFI à gauche, c'est TSF à droite, hein, radio de jazz, je crois, en 89.9, un truc comme ça. Non, il y a de quoi faire. Hein. Donc, si vous êtes chasseur ou chasseuse, je vous en prie, zappez. Alors là, vraiment, du fond du cœur. Hein, du fond du cœur. Parce que je vais dire un petit mot des chasseurs et des chasseuses, hein, si, puisqu'apparemment il y en a peut-être, je ne sais pas. On ne va pas faire de sexisme quand même, hein, tu vois. Except for sure, Madame Thatcher. Oui, alors je sors un tout petit peu de mon sujet, même si je vous ai fait part dans un premier temps de cette émission de quelques inquiétudes concernant la faune. Celle des Pyrénées, mais celle du monde, hein, quand même. Je rappelle que dans son dernier rapport, le GIEC parle de 18% des espèces terrestres qui ont un risque d'extinction du fait d'un réchauffement climatique de 2 degrés. On est plutôt sur des horizons 2,5 en ce moment. Hein. Donc, Il y a de vraies questions qui se posent pour la faune, et puis comme si ça suffisait pas, on a les chasseurs en plus. Alors ça c'est bon. Alors j'en profite pour passer un bonjour amical aux anciens de la Pente du Carmel, hein, qui relataient très régulièrement certains accidents de chasse qui pouvaient intervenir. La presse en relate parfois aussi, parce qu'il y a des choses quand même qui sont absolument aberrantes. Se faire tirer dessus parce qu'on se promène, tu vois, par exemple. Et alors, si ça ne suffisait pas qu'il y ait des chasseurs, je ne dirais rien sur la corrida, permettez. Si ça ne suffisait pas qu'il y ait des chasseurs, on a aussi un pouvoir qui est tout à fait enclin à leur filer un gros coup de main. Le 20 août dernier, dans un article publié par 20 minutes, sous la plume de Juliette Desmonceau, bonsoir Juliette, l'article s'intitule « Les subventions aux chasseurs sont passées de 27 000 euros à 6,3 millions d'euros en moins de 5 ans ». Moins de 5 ans, 2022, 2017, oui, Macron, président Macron. Alors, de 27 000 euros à 6,3 millions d'euros. Dans un premier temps, j'ai cru une coquille, tu vois, une faute de frappe. 27 000 euros à 6,3 millions d'euros. Non. Juliette Desmonceau commence son article ainsi. Un bond impressionnant. Le montant des aides accordées à la Fédération nationale des chasseurs, la FNC, a connu une valorisation fulgurante au cours du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, passant de 27 000 euros à 6,3 millions d'euros en 5 ans, selon les comptes transmis par la FNC au journal officiel les 8 et 9 août dernier et repérés par lanceurdalerte.org. Donc ce ne sont pas des affabulations, hein, ce ne sont pas des projections, ce sont des chiffres qui ont été publiés de manière officielle par la Fédération nationale des chasseurs elle-même. Je reprends la lecture. Cette augmentation massive vient notamment de la baisse du prix du permis national de chasse, rappelle nos confrères du Parisien. Accordé par le chef de l'État en 2018, elle divise son coût par deux, de 400 à 205 euros. Alors, donc ça coûte beaucoup moins cher maintenant d'être chasseur ou chasseuse. D'accord, ok. La décision a par la suite permis d'attirer de nouveaux chasseurs puisque le nombre de demandes de validation de permis de chasse a augmenté de près de 40% entre 2018 et 2019. 40%, c'est beaucoup, hein ? Mais c'est beaucoup moins que de passer de 27 000 euros à 6 300 000 euros. Incroyable. Ces nouvelles arrivées ont permis aux revenus annuels de la Fédération nationale donc de grimper à 28 millions d'euros en 2020 ainsi qu'en 2021. Ils ne s'élevaient qu'à hauteur de 11 millions d'euros en moyenne les années précédentes, soit moins de la moitié. Alors là, je ne suis pas très bon en maths, donc je ne vais pas insister, mais comment on peut avoir une augmentation de 40% et un doublement des... Bon, alors, bon, passons. La sympathie des mêmes... C'est très dur, les deux mots mis ensemble comme ça, c'est quand même pas évident. Allez, je vais essayer de reprendre et d'y arriver. La sympathie d'Emmanuel Macron pour les adeptes de la chasse est bien connue. Après avoir multiplié les clins d'œil en direction de cet électorat potentiel de 4 millions de personnes pendant la campagne présidentielle de 2017, oui, c'est vrai que c'est un électorat, le jeune président élu s'était dit publiquement favorable au rétablissement des chasses présidentielles officiellement supprimées sous Jacques Chirac. Même chose lors de la campagne présidentielle en 2022. Le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schraun, pardon, ayant lui-même déclaré officiellement son soutien au président candidat. Alors là, l'article fait état de quelques réactions chez les écologistes. Il faut que le nouveau gouvernement arrête de dire oui à toutes leurs demandes. Il y a eu beaucoup trop de cadeaux faits. Ils veulent saisir le gouvernement pour demander plus de transparence sur l'utilisation de l'argent public alloué aux chasseurs. Ils ont raison, mais je rappelle tout de même que ces réactions émanent de personnels qui ont eux-mêmes une petite clientèle électorale à séduire. Alors, Willy Schraun lui-même réagit, hein, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, FNC, je suppose que le C tient pour chasseurs, j'avais d'autres hypothèses, mais... Alors il parle d'une fausse polémique, de contre-vérité, d'une attaque politique née de son soutien à Emmanuel Macron. Il rappelle que la Fédération a connu assez récemment un changement de son domaine de compétences. Elle doit en effet prendre en charge depuis 2019 la gestion des associations communales de chasse et l'attribution des plans de chasse individuels, une mission attribuée auparavant au préfet, d'où, selon lui, un budget accru pour s'acquitter de cette mission. Il explique que tout est transparent, il n'y a pas un euro d'argent public qui n'est pas utilisé à bon escient. il le martèle même, nous dit Juliette Desmonceaux dans son article. Du côté de l'exécutif, on met en avant un changement de prérogative, donc on sort exactement la même soupe que Schrahn. Pardon. Donc un changement de prérogative concernant la délivrance du permis national de chasse, désormais attribué à la Fédération, un budget justifiant, aux yeux de l'entourage du Premier ministre, l'augmentation de son budget. Voilà, alors écoutez, donc de 27 000 euros, donc les subventions aux chasseurs sont passées en 5 ans de 27 000 euros à 6,3 millions d'euros. Mercredi dernier, dans une émission, je relatais le fait que la rémunération des patrons du CAC 40 était passée à un taux, avait augmenté de 52% en 2021 pour s'élever à 7,9 millions d'euros, avec un record pour le patron de Stellantis qui a gagné en 2021 66 millions d'euros. Ouais, je dis bien 66 millions d'euros. Je me suis livré un petit calcul, ça fait 2 euros la seconde. C'est pas mal quand on est Mister Président de chez Peugeot Fiat. C'est pas mal. Là, on est loin de tout ça, quoi. C'est-à-dire que même à côté de la Fédération des chasseurs, un patron des CAC 40, il fait petit joueur, quoi. De 27 000 euros à 6,3 millions d'euros de subventions accordées par l'État. C'est votre argent, c'est notre argent, c'est mon argent, c'est... Non, on n'est pas... Je n'irai pas sur ce terrain-là, mais enfin... Ça questionne, quand même.
There was dawning. How many weeks and months and years? You're wasted here, your blood was slipping. White Sunday morning was suddenly bright. You'll know from now, life is your own choice. No time to lose with passers-by. Pursuing flames through your lover's eyes. If you find an angel, you won't ever die. Will you find an angel, won't you ever die? Smile. You know, this is your way. Talk to me. Believe in your lifeline. Could you remember when they was dawning? How long you stayed, how many stairs? Down on you, your blood was boiling. One Sunday morning was coming away.
to me. You know, this is your way. Your new life, talk to me. I believe in your life. Yes, you could be an angel too. Thank you.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste, la Nuit Noire, qui va laisser la place, comme je vous le disais, à une conférence de Valérie Masson-Delmotte, qui est... J'aurais dû regarder. Quelles sont ses fonctions précises pour essayer de vous donner l'information de la manière la plus précise possible, hein, on va dire. Vice-rapporteuse, je sais pas. Je vais vous proposer Ange Atlantis. Ouais, voilà, on écoute Ange Atlantis. Regarde quelles sont les fonctions précises de Valérie Masson-Delmotte. Et comme ça. Et je vous explique un peu la playlist de ce soir. Radio Libertaire, la Nuit Noire. Il a quand même fallu qu'il s'interrompe ce magnifique saut de Jean-Michel Brézovard qui aurait pu s'épanouir jusqu'au bout, quoi. Dans la version anglaise, elle est un tout petit peu plus longue que dans la version française. C'est notable, tout de même. À l'instant même, c'était Ange avec Atlantis dans leur version anglaise de l'album Par les fils de Mandrin. Avant quoi, nous avons écouté 16 avec Perfect World, un extrait de son deuxième album. Cyril Collard, Lifeline, un extrait de la bande originale de son film Les Nuits Fauves. Et avant, il y avait la reprise en anglais de Miss Maggie par Renaud lui-même, hein, bien sûr, et Cascadeur Walker, à l'occasion de souhaiter un bon anniversaire à Gaël, même si là, il est trop tard. Cette fois-ci, il est minuit 3, oui, et nous sommes déjà un jour de plus que ce que nous pensions. Et c'est le temps qui passe, ça va très vite, et c'est inexorable. Et ça non plus, c'est pas toujours, Claude, bonsoir, hein, et merci de ton écoute, c'est pas non plus toujours une excellente nouvelle, faut bien en convenir de temps en temps. Alors j'écoute beaucoup cette chanson de Charlotte Gainsbourg avec laquelle nous avons ouvert, avec laquelle j'ai ouvert la programmation de ce soir, et je me suis dit, bah tiens, si je proposais lors de la prochaine Nuit Noire, c'était il y a quelques temps de cela, parce qu'elle devait avoir lieu il y a 15 jours déjà, si je proposais une sélection de chansons de chanteurs français qui chantent en expression anglophone, hein, pour ainsi dire. Et ma foi, c'est une... pourquoi pas, hein, ça existe. Vous entendrez, non pas mercredi là, mais celui d'après, que Léo aussi a eu une tentation de chanter en anglais, que cela n'a pas abouti et qu'aucun enregistrement n'a été sauvegardé de cette velléité, comme ça. Et quelque part, c'est pas plus mal. Enfin, je sais pas, non, ça aurait été intéressant d'entendre Léo en japonais ou en espagnol ou en turkmène, je ne sais pas, dans une autre langue. En italien, bien sûr, on l'entend en italien, mais dans une langue dans laquelle on n'a pas l'habitude de l'entendre, ça. Il y a toujours un côté charmant quand même, un peu au-delà de toute considération franco-française. Mais Léo s'est un peu moqué quand même de ces artisans de la chanson, hein, comme disait Jean Mérand, qui se sont trouvés une deuxième jeunesse en chantant en anglais. Et Léo n'est pas le seul à s'être moqué de ces chanteurs-là. Il y a Jean Ferrat aussi. On va finir cette programmation ce soir avec, pour être encore en haut de l'affiche de Jean Ferrat, une chanson dans laquelle justement il se moque un petit peu de ces chanteurs français qui, allez, cèdent à la facilité de chanter en anglais, peut-être diront certains et certaines. Ce sera juste avant de retrouver une conférence, comme je vous l'indiquais, de Valérie Masson-Delmotte, qui est co-présidente du groupe numéro 1 du GIEC. Voilà, je suis allé chercher l'information, qui est une chercheuse, une climatologue, avant toute chose, et une femme un peu de gauche quand même, hein. J'ai rien contre ces gens, hein, parce que je manifeste régulièrement à leur côté. Alors, je suis toujours un peu méfiant, mais je sais que dans les manifs, on se retrouve bien souvent, parce qu'il y a certaines questions sur lesquelles on se retrouve, hein, donc il y a quand même une petite affinité, on va dire, en quelque sorte, mais légère, hein, anarchiste ici. On vote pas. Une conférence qui a été donnée le 20 mars 2020 à l'Université de Lyon, donc par Valérie Masson-Delmotte, que vous pouvez trouver bien sûr sur une célèbre plateforme réseau social, soi-disant de partage de vidéos, et que je vous avais proposé le 30 août dernier au cours de cette nuit noire, de cette même émission, et donc elle sera notamment entrecoupée de quelques extraits de la suite numéro 1 pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, interprété par Paul Tortelier, histoire de rendre l'écoute un petit peu plus légère. Alors je vous rassure tout de suite, cette conférence est tout à fait abordable pour qui, moi je l'ai comprise. Alors ça, c'est pour vous donner une petite indication comme ça. Si vous n'avez pas forcément des capacités intellectuelles, alors d'un point de vue scientifique déjà, ça, si vous êtes vraiment nul en sciences, comme c'est mon cas, et si d'une manière générale, vous n'êtes pas non plus, hein, une foudre de guerre en ce qui concerne la réflexion, ou eh bien, cette conférence est tout à fait abordable et tout à fait compréhensible. Alors parfois, ici ou là, elle s'appuie sur des diapositives. Alors parfois, ici ou là, une image à laquelle elle fait référence nous échappe, mais en réalité, elle parle très vite de la réalité dont il est question dans la diapositive et on comprend très vite son propos. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Donc voilà, je vous laisse en compagnie non seulement de Jean Ferrat, mais de Valérie Masson-Delmotte, qui est du groupe d'experts intergouvernementaux concernant le climat, le GIEC, et qui vous expliquera donc un petit peu les enjeux, hein, de cette réalité qui s'appelle dérèglement climatique, et également qui renseignera aussi celles et ceux. Tout à l'heure, je parlais de gens qui remettent en cause la parole, qui remettent en cause beaucoup de paroles, et puis qui notamment remettent en cause non seulement la parole, mais les réalités établies par le GIEC, quoi. Enfin, les réalités qui remontent du terrain, quoi. Hein. C'est pas juste des choses fantasmées comme ça, et puis qui sont quand même mesurables par de plus en plus de gens. Alors, je citais les Zemmouriens, je citais éventuellement CNews et Pascal Praud, les choses comme ça, mais malheureusement, on peut aussi, enfin, malheureusement. Je me suis jamais berné d'illusions concernant le personnage, mais on pourrait citer aussi Michel Onfray. Hein. Ah là 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 là. Bon, on se retrouve mercredi pour le Ferry Club avec une émission spéciale mercredi qui durera longtemps, qui durera 2 heures avec Alaric Perrollier des éditions La Mémoire et la Mer qui nous parle de la parution, eh bien, du dernier volet. Ce n'est pas le dernier volet, mais c'est le dernier volet des publications Anthume, c'est-à-dire de son vivant. Ça, c'est un mot que j'ai appris grâce à Alaric. Donc, je vous ressors ce soir. Des publications de son vivant de Léo, un volet, le quatrième tome de l'intégrale Léo Ferré, publié par les éditions La Mémoire et la Mer, et qui s'intitule La Marge. Et mercredi, pendant 2 heures, c'est la première des 3 émissions qui seront consacrées. Donc, on a beaucoup parlé avec Alaric, mais son propos est tellement riche que je l'ai restitué le plus possible dans son intégrité aux auditeurs et auditrices du Ferry Club. Donc on se retrouve mercredi pour cette émission. D'ici là, Jean Ferrat et Valérie Massandelmoff. Prenez soin de vous, prenez soin d'elle. Ciao.
La langue française a fait son temps, paraît qu'on n'arrête pas le progrès. Que pour être vedette, à présent il vaut mieux chanter en anglais. Et moi, pauvre de moi qui me tais depuis si longtemps, faudrait que je fasse gaffe à tout ça, que je me reconvertisse à temps. J'ai pris la méthode à 6000 mètres in the pocket, pour avoir l'air comme les débiles d'arriver du Massachusetts. Pour être encore en haut de l'affiche, faudra que je susurre en anglais. Si je veux coller à mon époque, il me faut braire en amerloc. Singing in the rain, singing in the train, singing in my heart, singing in the wood, singing in the blue. It is not a touch. S'il n'y a plus rien d'autre à faire pour échapper à la misère, si c'est le seul moyen ici-bas d'intéresser les masses médias, si le français ou le breton, si l'occitan ou l'auvergnat, comme on me le dit sur tous les tons, le show business, il aime pas ça. Y a peut-être quand même un avantage à cette évolution sans frein. On pourra chanter sans entrave quand les gens n'y comprendront rien. Pour être encore en haut de l'affiche, je pourrais susurrer en anglais. Si je ne veux pas finir en loc, je pourrais braire en amerloc. Singing in the rain, singing in the train, singing my heart, singing in the wood, singing in the blood. It is not a touch. J'entends les copains ricaner que j'ai plutôt l'accent manouche. Ils sont jaloux de mon petit succès quand je le bouillis plein la bouche. Grâce au sondage indiscutable dans l'âme du français moyen, il paraît que nos responsables savent tout du goût de chacun. Plaire à tout le monde et à personne, c'est pas donné à n'importe qui. N'allez pas croire qu'ils s'en tamponnent s'ils nous transforment en colonie. Pour être encore en haut de l'affiche, je commence à penser en anglais. Quand j'aurai le feeling ad hoc, ça va faire mal en amerloc. Singing in the rain, singing in the train, singing in the
my hurt. Singing in the wood, singing in the blue, it is not the time.